mort au rat. Les boulettes empoisonnées, signé Rongemaille.
Brzezinski, cette ordure de chiffonnier qu'on voit passer chaque jour que Dieu fait avec sa carriole et sa vieille jument, commence à se faire du souci. Tout le monde sait comment ce salaud a profité du départ des Weber pour investir leur villa et établir sa boutique. Ça jase beaucoup au village, mais on sait tous que Brzezinski a certainement donné les Weber 2 jours à peine après l'arrivée des Allemands. Les gens d'ici continuent à prétendre qu'ils ne savent pas où ils sont allés, les Weber, les Holbiak, les Prutzen et les Bieberfeld. Ceux qui jouent le mieux avec leurs mensonges et s'arrangent avec leur conscience parlent de coups de feu tirés dans les bois, de fosses communes entre ici et le village de Poltarat, nos voisins si éloignés. On fait tous le signe de croix lorsqu'on en parle, et on se dit entre nous qu'une fois les Allemands loin d'ici, car on entend encore des tirs là-bas, ces chiens continuent à se battre et les Américains reculent parfois, on prendra nos pelles et nos pioches et on les déterrera afin de leur donner une sépulture digne de ce nom. Le vieux Roosevelt qui vient de revenir au village et s'est caché toutes ces années à Cracovie nous traite et nous insulte. Il gueule sur les toits que nous savons très bien ce qui leur est arrivé aux Weber et aux Bieberfeld. Lorsqu'il parle de cette fumée qui s'échappait des nuages et nous tombait dessus en volée de cendres, nous rentrons chez nous la queue entre les jambes en nous bouchant les oreilles. Roosevelt nous poursuit de ses imprécations. Il en veut peut-être à certains d'avoir profité de son absence pour vider sa maison. Il nous traite de mécréants et d'analphabètes, se moque de notre ignorance crasse. Personne n'a touché à ses livres pourtant, aux milliers de livres qu'il possède. Les Allemands en ont bien jeté quelques-uns par terre lorsqu'ils ont fouillé sa baraque, mais rien de plus. On lui a volé ses habits, son bois, ses meubles, et quand il a retrouvé sa bibliothèque intacte, ce que tout le village a entendu lorsqu'il est entré dans sa maison pour la première fois depuis 6 ans, ce fut son rire qui, peu à peu, avait fondu en larmes. Quand les Américains ont enfin nettoyé la vallée, on les a vus s'installer un peu partout. Notre village leur a servi d'hôpital de campagne pendant des mois. Et un jour, le colonel Yankee est rentré fou furieux d'une expédition et a ordonné à ses hommes de nous sortir de chez nous, tous sans exception, et de nous aligner contre nos maisons dans la rue principale et nous mettre à genoux. Ils sont arrivés avec des brancards et ont ordonné aux hommes, jeunes et vieux, et aux femmes bien portantes, de venir avec eux dans la forêt. Quelques heures plus tard, nous, les enfants, et les vieux restés agenouillés dans la poussière, nous avons vu défiler nos pères, nos mères, nos oncles et nos frères, transportant les cadavres putréfiés. Des corps noircis et puants, tous revêtus d'habits propres. Tous ces morts avaient encore les doigts crispés sur la terre qui les avait ensevelis, mais ils étaient habillés. Les Américains nous ont forcés à creuser des tombes. Roosevelt a dit les prières et le colonel nous a ordonné de le suivre. Les jambes raides, nous étions restés à genoux plus de 6 heures. Nous avons marché longtemps jusqu'à cette énorme fosse au milieu de laquelle Brzezinski, notre chiffonnier, se tenait là, torse nu, hagard, exténué d'avoir creusé si longtemps, tout seul, déterré tant de cadavres et les avoir rhabillés avec les habits qu'il leur avait volés. Le colonel nous a alors demandé de combler la fosse que nous avons fait, hommes, femmes, enfants et vieillards, sans jeter un regard à Brzezinski en dessous, qui suppliait. Roosevelt adossé à un arbre qui ne disait plus rien. Il n'y eut plus que cette motte de terre au milieu de l'immense trou comblé, qui remuait encore comme si une bulle voulait éclater à la surface. Le colonel a posé sa chaise pliante dessus, allumé une cigarette et nous a ordonné de foutre le camp.